Notre invité ce matin dans le 8-30, Jean-Louis Chabot, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Association des maires ruraux dans les Alpes d'Haute-Provence. Pourquoi cette invitation aujourd'hui? Parce que la ruralité veut compter. Elle voulait compter déjà pour les présidentielles. Elle veut compter pour les législatives de juin prochain. 100 propositions sont faites aux candidats. 100 propositions que j'ai regardées, j'ai lues avec attention et je retrouve exactement les mêmes qu'il y a 5 ans.
C'est exact, les propositions qui sont faites aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 5 ans dans la législature précédente. Ce qui montre que les choses n'ont pas trop avancé en 5 ans, malgré qu'il y ait eu quelques batailles gagnées.
Lesquelles? Parce qu'il y a eu la loi de décentralisation, la loi 3DS, il y a eu la loi engagement proximité, il y a eu la création d'un ministère de la cohésion des territoires, occupé par Joël Giraud.
C'est vrai qu'il y a eu la nouvelle définition de la ruralité, l'agenda rural. On a eu droit à un ministre de la ruralité, à la personne de M. Joël Giraud. On a eu droit aussi à une nouvelle définition de la ruralité qui donne aujourd'hui une vraie photographie de ce qu'est la ruralité. Ces chiffres qui reviennent souvent, c'est 88% du territoire pour 33% de la population, mais il faut bien avoir en tête ces 88% du territoire qui est une grande partie de la France est rurale, quoi. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui que la ruralité n'a pas été la grande oubliée du mandat Macron?
Elle a quand même été oubliée. La problématique qu'il y a, c'est que les politiques que l'on décline et qui sont applicables à la ville ne sont pas assez différenciées pour être appliquées sur la ruralité. Et les critères retenus pour appliquer les politiques de la ville ne s'applique pas stricto sensu au niveau de la ruralité. Donc il faut une politique spécifique pour la ruralité. Donc il faut user de ce droit de différenciation que la loi permet pour adapter les politiques à la ruralité.
On va revenir justement sur ces critères de différenciation, mais avant cela, est-ce que selon vous, Jean-Louis Chabot, c'est la loi NOTRe qui a porté un coup de grâce à la ruralité, qui n'est pas une loi qui a été votée sous Emmanuel Macron, qui est une loi qui a été voulue par Nicolas Sarkozy, appliquée sous François Hollande?
Il y a la loi NOTRe, elle est décriée par les ruraux depuis longtemps. Les grosses intercommunalités, ces grosses structures où tout le monde se noie dedans et qui ont été plus imposées que voulues, ça a été entre guillemets catastrophique pour la ruralité. Plus personne se reconnaît en rien dedans. Voilà. Mais bon, aujourd'hui la loi est ainsi faite. On a beau répéter que la loi est on gagne parfois un peu des avancées, on arrive à avoir mais c'est à la marge, notamment sur le transfert de l'eau et de l'assainissement. C'est vraiment à la marge, c'est pas des choses qui vont bousculer réellement le fondement de la loi et arranger les choses.
Ah oui, cette fameuse compétence eau et assainissement, on en entend très souvent parler. Les maires demandent tous la même chose. Laissez-nous gérer cette fameuse compétence eau et assainissement. Mais pourquoi continuer à se battre pour que cette compétence reste locale, reste communale?
Je vais faire preuve de pragmatisme et je vais enfoncer une porte ouverte. L'eau, c'est la vie. La commune, c'est la vie pour une maire. Donc, enlever l'eau, c'est à une maire, c'est y enlever un peu de sa vie communale. Je veux dire, c'est imagé, est ce que je dis, mais pour moi, je le ressens comme ça.
Mais quelle incidence sur le terrain?
Ben, l'incidence sur le terrain, c'est le service à la population. Je veux dire, aujourd'hui, je prends l'exemple de la communauté des communes où je suis, la communauté des communes Alpes-Provence-Verdon, qui est une communauté des communes de 41 communes sur un quart du département avec les plus grandes communes. La plus grande commune Castellane fait 1200 habitants. Toutes les autres communes sont des petits bourgs et des très petites communes. Toutes les communes ont l'eau aujourd'hui en gestion, puisqu'on n'a pas transféré l'eau et l'assainissement, qu'on avait sur 2026 pour le transférer. Et c'est pas comme dans les agglos où ça a été une compétence obligatoire à partir du 1er janvier 2020. Demain, imaginons le pire. C'est transféré, il n'y a plus qu'un service commun. Les délais d'intervention sur une commune, c'est enlever encore un petit peu la proximité à nos administrés, surtout que Et puis bon, il y a beaucoup d'écart entre les communes au niveau des structures, au niveau de l'avancement dans leur distribution. Mmh. Donc, à partir de là, je veux dire, le prix va aussi changer chez certains en bien et chez d'autres en mal. Voilà. Donc, mais ça sera pas une gestion voulue par le maire, ça sera une gestion voulue par l'interco, quoi, par la structure porteuse.
Ouais, alors on le comprend en tout cas aujourd'hui, la demande des maires ruraux, c'est de revoir, de reconsidérer la place des territoires dans la géographie politique. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Et vous proposez d'inscrire dans la Constitution non plus le critère démographique qui permet d'appliquer certaines lois, mais le critère de territoire et d'espace. C'est-à-dire
Eh bien, aujourd'hui, pratiquement toutes les politiques publiques sont déclinées par rapport au nombre d'habitants. À ce nombre d'habitants, non pas mettre totalement à ce nombre d'habitants, il faut mettre une part d'espace dedans. Les déclinaisons des lois dans des bourgs ou dans des villages, l'accès aux services publics, les ratios qui sont imposés, je veux dire, faire 13 kilos, une MSAP, par exemple, une maison de France Service, le président de la République a dit qu'il en fallait une par canton, en gros. Mm. Une par canton, je veux dire, un canton d'avant et un canton de maintenant, je veux dire, c'est tout à fait différent. Une par canton, ça voudrait dire que sur le canton de Marais, il y en aurait une seule Ariès.
Oui.
Les gens de Barème ou de Tartonne ou de qui vont à Ariès, bon, il s'avère que c'est pas comme ça, mais je veux dire, c'est un exemple bête que je vous donne, mais voilà, les distances à parcourir, je veux dire, normalement, c'est 13 kilomètres en ville où les moyens de mobilité sont différents, c'est pas 13 kilomètres en ruralité ou ici dans notre département, voilà.
Ouais. Vous faites aussi une proposition, vous demandez aux députés et au président aussi de faire le pari de la jeunesse et de favoriser l'accueil de cette même jeunesse dans les communes de France. Pardon, mais ce n'est pas vraiment aux députés ou aux présidents de le faire, c'est plutôt aux maires et aux politiques communales.
C'est clair, sauf qu'il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir appliquer les politiques. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est obligé de réaliser certaines choses pour se mettre en adéquation avec l'assainissement, avec l'eau, avec plein d'autres choses, et qu'on est obligé de toutes les normes et les contraintes qui pèsent dessus, ben c'est compliqué après d'arriver à développer des politiques publiques. Voilà. On manque de financement pour avoir développé certaines politiques publiques.
Et c'est ce que vous demandez aussi, hein, de supprimer l'écart de dotation entre les ruraux et les urbains. Mais c'est pareil, ça, quand je regarde dans les sommes, il y a quand même pas mal d'argent qui est débloqué pour les territoires ruraux, dotation forfaitaire, presque 7 milliards d'euros en 2021, dotation de solidarité urbaine, cohésion sociale, 2,5 milliards d'euros, solidarité rurale, 1,8 milliard d'euros.
Ça, ce sont des dotations aux communes, sauf qu'au niveau de la DGF, un habitant urbain vaut deux habitants ruraux.
C'est-à-dire qu'on gagne deux fois plus de dotations globales de fonctionnement.
Un habitant urbain est considéré comme à une somme, un habitant rural est considéré la moitié. Ça veut dire qu'au niveau des dotations, une commune rurale par rapport à une commune urbaine va toucher... toucher la moitié.
Mais il n'y a pas les mêmes services aussi. Voilà. Il faut être aussi honnête, Jean-Louis Chabot, dans une agglomération, dans une métropole, il n'y a pas les mêmes services que dans une commune rurale.
Oui, mais un truc qui est sûr, c'est que si on ne donne pas les moyens de les faire, ils n'y seront jamais. Et donc, à partir du moment où on veut de l'offre aux populations, il faut qu'on ait les moyens pour pouvoir l'exécuter.
Ouais, et dans vos propositions...
Sinon, à un moment donné, c'est sûr que... On va vider les petites villes et les villages et on va continuer à faire grossir les agglomérations, les gros bourgs, les grosses villes. Et c'est certain, il y a les charges de centralité, c'est certain, mais certains villages ruraux ont des charges de centralité aussi. Et voilà, à leur échelle.
On parlait il y a quelques instants de jeunesse, vous parlez aussi de nos aînés. Faire en sorte que nos aînés ruraux puissent rester dans des EHPAD ruraux.
Dans des EHPAD ruraux où qu'on ait vraiment les moyens de, 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 de politiques qui nous permettent de les garder, de les garder chez eux. Je veux dire, il faut développer tous les services à la population qui sont des aides à domicile, les ADMR, il faut qu'ils aient les moyens de vivre et d'exister. Je veux dire, voilà, c'est la problématique est là aussi, quoi. On a quand même et tout ça, c'est il y a toute la mobilité qui rentre dans ce cadre-là. Il y a la mobilité terrestre avec les véhicules, et il y a la mobilité numérique aussi. Aujourd'hui, la mobilité numérique sur nos territoires ruraux, bien souvent, elle est un peu désuète, quoi. Donc voilà.
Et vous demandez aussi un véritable statut de l'élu local, c'est-à-dire une indemnité?
Je pense pas que ça vienne là au niveau des indemnités. Parce que les maires ruraux ne font pas ça pour que les choses soient. Je pense que c'est plus que le rôle de l'élu local soit beaucoup plus clair de par ses compétences et la reconnaissance de l'élu local. Pas uniquement responsable de tout chaque fois que on sait pas qui mettre comme responsable, quoi. C'est surtout que je veux dire que tout soit bien borné, quoi. C'est tout pour ça. Après, au niveau de l'indemnité, les élus ruraux, après, ils font pas la course à l'échalote pour l'indemnité.
Voilà.
Des maires ruraux. C'est pas mon idéal, moi. Donc, voilà.
Des maires ruraux qui demandent donc à être entendus et reconnus par des élus nationaux, à savoir les députés, sans propositions qui sont faites par les associations des maires ruraux de France aux candidats pour les législatives. Merci beaucoup, Jean-Louis Chabot, d'avoir été avec nous.
Je voudrais juste rajouter que l'échange qu'on a eu aujourd'hui tous les deux, cet échange-là, je vais porter à connaissance à tous les candidats qui aura au nom des maires ruraux de France et au nom de l'association 04 la résolution qui a été adoptée à l'Assemblée générale plus les 100 propositions, et on leur fera aussi un rappel des 20 propositions qui ont été faites aux candidats de la présidentielle au mois de avril dernier.
Voilà. La liste est donc faite auprès des candidats. Merci Jean-Louis Chabot d'avoir été avec nous, président de l'Association des maires ruraux dans les Alpes de Haute-Provence. Merci.
Merci beaucoup.